Bonjour. Donc moi, je suis pneumologue et spécialiste en médecine du sommeil. J'exerce donc dans l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre à Brest. Et donc, comme on l'a dit, effectivement, je vais vous présenter les résultats des recherches sur les troubles du sommeil chez les militaires. Parfait. Alors donc on va voir d'abord quelques définitions, puis les contraintes spécifiques au milieu militaire. Je vous présenterai ensuite les résultats des études sur le sommeil des militaires. On verra les conséquences globales du manque de sommeil. Et rapidement, on ébauchera quelques contre-mesures pour compenser le manque de sommeil. Pour commencer, je laisserai la parole aux combattants. Donc ça, c'est une citation du général qui dirigeait les forces armées américaines pendant la bataille du Pacifique et qui souligne à quel point les conséquences du manque de sommeil se mettent en place de façon très insidieuse et peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Donc le sommeil est défini comme un état physiologique transitoire et réversible de suspension de la vigilance qui s'accompagne d'un ralentissement du métabolisme et d'une restauration physique et psychique. En moyenne, le besoin de sommeil physiologique il est autour de 7-8 heures par nuit. Donc, dans la restauration physique, il y aura la restauration tissulaire avec la cicatrisation, la correction des erreurs dans l'ADN. Et il y aura aussi une restauration du système immunitaire. Au niveau psychique, il y aura une récupération psychique principalement pendant le sommeil paradoxal et une structuration des acquis et de la mémoire. Quand je fais cette présentation aux soldats, j'aime bien leur rappeler que le sommeil, c'est une fonction vitale. Et quand on cherche dans le livre des records, donc la privation de sommeil la plus longue qu'on ait chez l'homme, c'était 11 jours. Et l'expérience avait été interrompue parce que l'étudiant américain qui s'y prêtait commençait à avoir de sérieux troubles du comportement. Et pour l'animal, pour ceux qui ont fait le DEU du sommeil, on a été formés aux expériences de Jouvet de l'école lyonnaise avec l'ensemble des chats qui mouraient au bout de 21 jours de privation de sommeil. Donc c'est donc vraiment une fonction vitale. La fatigue est définie comme une sensation désagréable provoquée par des facteurs physiques, intellectuels, on peut aussi rajouter psychiques, qui se traduit donc par un manque d'énergie, une difficulté à faire des efforts, une lassitude, un manque de motivation. En médecine du sommeil, il faut bien distinguer la fatigue et la somnolence, qui, elle, est une difficulté à rester réveillé. Quelles sont donc les contraintes spécifiques du milieu militaire? Donc en milieu militaire, il y a fréquemment du travail posté, du travail de nuit, des missions de nuit. Le Good, dans son article qui est paru en 2020, soulignait que si le succès des opérations militaires de nuit est très médiatisé, comme l'opération qui a permis la neutralisation de Oussama Ben Laden, en fait, ça cache de nombreuses opérations qui ont échoué parce qu'elles ont été réalisées de nuit et avec des personnels qui n'étaient pas forcément bien préparés en termes de repos. On peut aussi avoir fréquemment des opérations en continu sur 24 heures ou plus. Les pilotes de l'armée de l'air font fréquemment des vols particulièrement longs avec des ravitaillements en vol, donc sans pause. Quand on est projeté en opération, on peut franchir rapidement des fuseaux horaires. Et enfin, sur les bases militaires, comme à bord des bateaux, il y a une atmosphère qui est lumineuse, qui est sonore, qui perturbe le sommeil. Souvent, nos soldats dorment dans des dortoirs avec les contraintes qui vont avec. Et enfin, les opérations militaires exposent au risque d'usure psychique et au risque de traumatisme crânien et commotion cérébrale. Je rajouterai que le milieu dans lequel les soldats sont déployés est quand même un milieu souvent exigeant. Ça peut être le désert, la montagne, la mer. Et un milieu dans lequel l'environnement est rarement maîtrisé. Le conflit en Ukraine actuellement nous montre bien qu'on peut être à plusieurs centaines de kilomètres du front et on reste toujours à la merci d'une attaque de drone ou de missiles balistiques. Donc ce n'est pas toujours facile de se reposer dans ces conditions-là. Au final, donc l'ensemble de ces contraintes de charge de travail physique ou psychique, la dette de sommeil avec les opérations de nuit, les contraintes climatiques, Les difficultés pour s'hydrater ou se nourrir, ça va entraîner une fatigue qui peut générer une réponse aiguë qui va permettre de compenser. On voit d'ailleurs que le patrimoine génétique intervient dans la compensation de la fatigue en aiguë, et puis quand c'est chronique, ça décompense et il peut y avoir des conséquences. Donc là, je vais vous présenter les résultats de trois travaux de thèse qui ont été menés sur le sommeil des militaires et qui malheureusement ne sont jamais allés au-delà du travail de thèse, n'ont jamais été publiés. La première étude, c'était une étude à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est une unité militaire. Et donc, ont été inclus 733 pompiers qui étaient répartis dans quatre casernes. Ces pompiers, lors d'une visite médicale de routine de suivi, remplissaient un questionnaire de dépistage des troubles du sommeil, et puis un questionnaire avec leurs habitudes de sommeil, d'hygiène de vie. Et ils étaient également interrogés sur le fait de savoir s'il y avait eu des conséquences de la fatigue dans leur exercice professionnel. Alors, le premier résultat qui a été surprenant dans cette étude, c'est que ces pompiers décrivaient un temps de sommeil les jours de repos de 8h08 versus 7,4 pour dans d'autres études chez les militaires. Et on a trouvé quand même une incidence assez importante des troubles du sommeil. Donc, pour l'insomnie, on était à 12%, 12,7%, comme dans la population générale. L'apnée du sommeil à 2,6, c'est un peu moins que la population générale, mais c'est quand même des personnels qui sont très sportifs, qui sont affûtés. En revanche, on avait beaucoup de personnels hypersomniaques. Et si on regarde le score d'Epworth, on avait quand même 20% de la population qui avait un Epworth supérieur à 12. Cette constatation d'une hypersomnolence importante, avec un temps de sommeil long les jours de repos, a fait prendre conscience au commandement en fait, de mauvaises habitudes qu'avaient les pompiers. En fait, ils étaient nombreux à habiter en dehors de Paris et à venir soit avoir des temps de trajet très longs pour venir au travail, donc à être en privation de sommeil en semaine, soit à venir 2, 3 jours par semaine sur Paris où ils enchaînaient les gardes. Et les conséquences de ce travail de thèse, c'est que le commandement des pompiers a revu le temps de travail et a passé des consignes. Concernant les conséquences du manque de sommeil, quand on compare le groupe en rouge qui avait un score d'Epworth supérieur à 12 au reste du groupe, il y avait quand même significativement plus d'erreurs en intervention, dont des erreurs qui avaient mis en danger soit l'équipage qui intervenait, soit la victime. Il y avait plus de baisse de vigilance, de baisse ressentie des capacités physiques, et également plus de problèmes relationnels au sein de l'équipe. La deuxième étude, c'est un travail de thèse que j'avais fait faire à Marseille. Et donc, on avait inclus, c'était le même design, les sujets étaient vus avant d'être projetés en opération. Ils remplissaient un questionnaire de dépistage des troubles du sommeil et puis un questionnaire sur leurs habitudes de sommeil. Donc, on a inclus 497 sujets qui étaient principalement issus des troupes de marine et qui étaient projetés au Sahel, en Irak, au Liban. Donc, on a eu 16% de troubles du sommeil, dont 7% de personnel hypersomniaque, 8% d'apnéique, 1% d'insomnie. Alors, je pense qu'on avait peu d'insomniaques parce qu'on les a pris juste avant le départ en mission. Ils sortaient de la phase de préparation opérationnelle et en fait, la plupart étaient très fatigués ou en dette de sommeil. Donc, probablement que ça avait réglé le problème d'insomnie chez un certain nombre d'entre eux. Et encore une fois, on avait quand même 17% de patients très somnolents, donc avec un Epworth supérieur à 12. Donc, ça interroge quand même de projeter en mission des personnels qui vont devoir faire la guerre et sont déjà avec un score d'Epworth à 12. On avait retrouvé une forte corrélation entre la performance physique ou psychique et le score de somnolence. Et dans la deuxième partie d'étude, qui était à l'arrivée sur le théâtre d'opération, où on a eu un problème logistique, donc il y a eu très peu de retours, mais globalement, ils mettaient 3 jours à l'arrivée sur le théâtre pour récupérer et 5 jours pour la grande majorité de l'effectif. Le dernier travail de thèse, c'est une thèse qui a été soutenue à Brest plus récemment. Donc, c'est sur le même design, les militaires remplissaient des questionnaires d'évaluation du sommeil. Et cette fois-ci, il y avait un groupe témoin qui était recruté dans des services de médecine professionnelle et de suivi de médecine du travail en région parisienne. Donc là, il y a eu 489 civils inclus et 385 militaires. Alors, on est un peu surpris par le 27% de personnel féminin qui tranche avec les autres études dans le sommet des militaires. Et dans cette étude, il y avait une analyse génétique sur un échantillon de salive pour étudier le polymorphisme des gènes qui influencent le métabolisme de la caféine et de certains médicaments et des gènes horloges. Donc, les militaires avaient un temps de sommeil significativement plus court que les civils, avec du coup une moyenne à 6h08. ils faisaient plus de sport en semaine. Globalement, c'était les militaires se levaient plus tôt, hein, puisque trois quarts des militaires se levaient avant 7 heures, et contre seulement un tiers des civils. Et il y avait un jour de travail de nuit par mois pour les militaires, donc des gardes. Concernant les troubles du sommeil, il n'y avait pas de différence entre les civils et les militaires sur l'insomnie. Sur l'hypersomnie, par contre, il y avait une différence, et sur l'apnée, pas de différence non plus. Quand on prend le groupe de patients hypersomnolents avec un apport supérieur à 12, il y avait aussi une différence statistiquement significative entre les militaires et les autres. L'analyse génétique a mis en évidence une différence d'expression dans certains gènes, dont le gène de l'adénosine, qui serait associé à un temps de sommeil plus faible, donc plutôt des petits dormeurs constitutionnels, à moins de troubles du sommeil, mais par contre une plus grande vulnérabilité vis-à-vis de la dette de sommeil. Au final, ce qu'on peut dire de nos militaires français, globalement, ce sont plutôt des petits dormeurs, plutôt avec un profil du matin, mais avec quand même cette proportion de 20% de personnel qui sont hyper somnolents, qui quand même est gênante, en grande partie expliquée par une dette de sommeil, par des gens qui se lèvent tôt le matin parce qu'ils ont des temps de trajet importants ou parce qu'ils font des gardes d'officiers de permanence ou autres. Et puis, quand on regarde la consommation de café, il y avait plus de gros consommateurs de café que dans le civil. Alors du coup, on peut se dire, est-ce que c'est si grave que ça ? Donc on va voir maintenant quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur la santé et sur l'opérationnalité de nos militaires. Donc concernant les conséquences physiques, la privation de sommeil en aigu n'a pas d'effet sur la force musculaire ou sur la capacité d'endurance. En revanche, elle va diminuer la motivation et la perception de l'effort. Donc pour faire une même performance physique, il faudra vraiment développer plus de volonté. Il y a un effet de la privation de sommeil qui augmente le risque de lésions musculo-articulaires, avec vraiment un seuil à 6 heures de sommeil la veille de l'accident. Et en milieu militaire, ce qui nous intéresse, c'est que la privation de sommeil diminue les capacités d'acclimatation aux contraintes environnementales. On a plusieurs études qui montrent qu'on a plus de coups de chaleur d'effort, plus d'accidents de décompression en plongée et plus de complications de l'altitude après privation de sommeil. Enfin, donc ça diminue l'efficacité du système immunitaire. On s'infecte plus facilement quand on est en privation de sommeil. Et il a été observé une diminution de l'efficacité des vaccins, notamment dans une étude chez des soignants qui étaient vaccinés en sortie de garde. Ça, c'est une étude de l'armée américaine. Donc, c'est comme les Américains savent le faire. Ils ont inclus quand même 7500 militaires. Donc, ça, c'est des beaux effectifs. Et ils ont... C'est réparti ces militaires en groupes par temps de sommeil. Donc le groupe qui dormait plus de 8 heures, c'est au moins 7 heures, au moins 6 heures, etc. Et ils ont vu si, sur un an, le temps de sommeil influençait le pourcentage de blessures dans chacun des groupes. Donc la moyenne des blessures dans la population globale, elle est autour de 56% dans l'année. Et on voit qu'il y a vraiment un shift à 6 heures de sommeil par nuit. Le groupe qui dormait 5 heures ou celui qui dormait 4 heures sont largement au-dessus de la moyenne du groupe en risque de blessure et les autres ont un risque plus faible. Au niveau psychique, la privation de sommeil induit une altération de l'efficience pour les tâches complexes, surtout si, et puis également les tâches monotones et prolongées, donc comme la conduite. Une privation totale d'une nuit de sommeil ou chronique à 4 heures par nuit, ça entraîne une baisse de la vitesse de réaction, une augmentation du nombre d'erreurs et une augmentation du nombre de micro-sommeils au cours de l'éveil. En bas, je vous ai mis une étude dans l'école navale de la marine norvégienne qui est assez intéressante. Ils ont pris des élèves officiers à qui ils ont fait faire des simulations de bataille navale. Ils leur ont fait faire en conditions normales et après, ils l'ont refait en conditions de privation de sommeil après 3 jours à 2h30 de sommeil par nuit. Et ils ont observé en privation de sommeil qu'il y avait une diminution des capacités d'anticipation et surtout une augmentation de la prise de risque dans les choix. Vous l'avez peut-être expérimenté au volant, etc. C'est le « ça va passer quand on est fatigué, ça va passer ». Et c'est quand même mauvais signe quand on arrive à penser ça. Pour rappel, une nuit blanche au niveau des réflexes, c'est l'équivalent d'une alcoolémie à 0,8 g par litre et 17 heures de veille active, c'est 0,5 g par litre. Ça, c'est une étude qui a été faite chez des personnels navigants qui effectuaient un vol de 9 heures et on leur faisait porter le bandeau Dream, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit bandeau qui s'enfile facilement et qui a des électrodes EEG et qui permet d'enregistrer un EEG avec la même précision que ce qu'on fait en polysomnographie. Et donc on a pris ces personnels navigants qui faisaient ce vol de 9 heures et on a enregistré le nombre de micro-sommeils pendant l'éveil par demi-heure. Et donc ils étaient répartis selon le nombre d'heures de sommeil qu'ils avaient eu la veille du vol. Encore une fois, on voit ce seuil de 6 heures de sommeil la veille du vol, en dessous duquel il y a quand même beaucoup moins de micro-endormissement pendant l'éveil, alors qu'effectivement, tous les personnels qui avaient dormi 5 heures et moins ont un nombre de micro-sommeil dans l'éveil qui est plus important. Le nombre de micro-sommeil était donc associé à la fois au temps de sommeil la nuit qui précédait, à la durée d'éveil avant le vol, au temps de service, à l'heure dans la journée. Vous savez que l'horloge biologique fait que la nuit ou après le déjeuner, c'est le moment où on prend un coup de barre, ou que c'est un moment qui est plus propice aux accidents, et puis au nombre d'heures de vol. Concernant la privation de sommeil chronique, il va y avoir à terme une activation de l'axe du stress avec une modification de l'expression génétique. Il y a une modification des télomères sur les chromosomes. Ça va entraîner une prise de poids, l'obésité, du diabète. Il y a des conséquences cardiovasculaires avec l'hypertension artérielle, l'arythmie. Et depuis 2019, le travail posté a été classé en cancérogène probable par le Centre de recherche anticancéreux international, notamment pour le cancer du sein. Donc on connaît tous l'étude chez les infirmières anglaises de nuit qui avait effectivement plus de cancer du sein. Chez l'homme, il y a un lien significatif pour le cancer de la prostate et un lien évoqué pour le cancer colorectal. Il est classé en cancérogène probable parce que les données sont hétérogènes, mais il y a des études où c'était que du travail posté pendant un certain moment de la carrière. Certaines études, c'était du travail posté toute la carrière, et d'autres, c'était plutôt du travail de nuit. Donc peut-être qu'avec des études beaucoup plus homogènes, on se rendait compte que c'est peut-être un cancérogène certain et pas seulement probable. Au niveau psychocognitif, le manque de sommeil augmente le risque de dépression et de troubles de l'humeur, le risque de conduite addictive et de suicide. Et ce qui nous intéresse particulièrement chez les militaires, c'est le risque de PTSD. Et donc, on a des études qui montrent que l'existence d'une insomnie avant un déploiement en mission, ou l'existence même d'une apnée du sommeil avant l'exposition à un événement traumatique, c'est un facteur de risque de développer un PTSD après cet événement traumatique. Probablement que le manque de sommeil paradoxal fait que l'assimilation psychologique de l'événement traumatisant est perturbée. Ça, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante sur sommeil et conduite. Donc, les effets des différents perturbateurs du sommeil se multiplient au lieu de s'additionner, que ce soit la privation de sommeil, l'existence d'une pathologie sous-jacente du sommeil, la prise de traitement, les hypnotiques, certains psychotropes, la consommation d'alcool et l'heure de circulation. Donc les effets se multiplient. Le profil le plus à risque d'avoir un accident de circulation, c'est le jeune homme qui a une pathologie du sommeil, soit un apnéique, soit un narcoleptique, qui est en travail posté et puis qui, par habitude, dort moins de 6 heures par nuit. Donc on l'a vu, l'aptitude à la conduite va être mise en danger du fait d'un allongement du temps de réaction, d'un trouble du jugement et puis des micro-sommeils pendant l'éveil. Les contre-mesures qui sont étudiées dans ce papier-là. La sieste, moins de 20 minutes, ça améliore un peu la vigilance. La caféine fonctionne, mais de façon transitoire. En gros, ce qui marche mieux, c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil au quotidien et la veille d'un trajet, de faire une extension du temps de sommeil. Enfin, ont des effets délétères, l'alcool, tout le monde en est convaincu. Par contre, le fait de parler au téléphone et d'écouter de la musique, il a été démontré que finalement, ce n'est pas des choses qui améliorent la vigilance au volant. Concernant le tir, puisque c'est un peu la base du métier de nos soldats, il y a beaucoup de données dans la littérature, mais alors c'est des données qui sont très hétérogènes. Ça va des tireurs sportifs qui ne sont pas du tout en condition de stress aux forces spéciales, notamment la semaine en enfer dans l'entraînement des Navy Seals. Et donc la privation de sommeil, ça va baisser la vitesse d'engagement. C'est le temps entre l'apparition de la cible et le déclenchement du tir. Ça va diminuer la discrimination ami-ennemi, donc ça c'est problématique. Et la précision du tir, aussi bien en groupage que par la distance par rapport au centre de la cible. Et la caféine, donc quand les études qui concernent des militaires en situation de stress ou de privation de sommeil, ça montre que ça va améliorer la vitesse de déclenchement du tir. Alors ça ne va pas être un tir n'importe comment, ça limite quand même la perte de précision du tir, mais seulement dans les études chez les militaires en privation de sommeil. Quand on prend les tireurs sportifs, s'ils ne sont pas en privation de sommeil et qu'on leur donne du café, au contraire, ils vont moins bien tirer. Voilà, donc la caféine, à voir selon les circonstances. Les contre-mesures qu'on a au niveau militaire pour lutter contre les conséquences du manque de sommeil, donc il y aurait le dépistage des troubles du sommeil à l'incorporation et lors des évaluations périodiques. Il faut savoir qu'on évalue nos militaires avant chaque départ en opération, et c'est vrai qu'on a été particulièrement surpris de voir que des militaires qui allaient partir au combat, on en avait quand même 17% qui avaient un apport à 12. Et on se dit que probablement qu'il y a un manque dans le dépistage des troubles du sommeil, dans le suivi de nos soldats. On fait beaucoup d'informations auprès des soldats, beaucoup d'informations sanitaires. On commence à développer des consultations sommeil pour les militaires. Ce qu'on recommande pour nos soldats, c'est que chacun détermine son réel besoin de sommeil, parce qu'en fait, souvent, on confond le besoin de sommeil avec le temps de sommeil qu'on s'accorde en semaine. Mais quand on se fait deux grasses mat de 2 heures le week-end, c'est que probablement la semaine, on est en dette de sommeil et qu'on a besoin de récupérer. Et enfin, on a aussi un rôle de conseil au commandement. Je vous ai mis en bas un extrait très sérieux d'un manuel de l'armée américaine. Il date de 2009. Mais quand on fait l'information sanitaire aux soldats, souvent, on se rend compte qu'il faut vraiment reprendre à la base, qu'il y a probablement eu des ratés dans l'éducation à la santé, dans l'enfance. Mais j'aime bien voir qu'il faut insister pour que les soldats vident leur vessie avant d'aller se coucher le soir, parce que sinon ils vont se réveiller la nuit, que c'est pas bon pour leur sommeil et qu'en plus ça risque de réveiller leurs camarades dans le dortoir. Donc ça, c'est des conseils très sérieux de l'armée américaine, et donc ça montre l'importance de l'éducation sanitaire. En opération, je vous ai pas mis les données parce que c'est un tout petit peu hors sujet, donc on recommande de faire des siestes. La sieste, il a été démontré que ça augmente la réactivité. Ça améliore aussi les fonctions cognitives à condition qu'il y ait un peu de sommeil de stade 2 ou 3, donc il faut que ce soit des siestes un peu longues. En revanche, quand on fait une sieste au-delà de 30 minutes, il y a un risque d'inertie de sommeil au réveil. Donc quand on veut être rapidement efficace, il ne faut pas dépasser 20-30 minutes de sieste. L'extension de sommeil, ça marche bien, donc quand on sait qu'on doit être efficace à un moment donné, il ne faut pas hésiter à dormir plus la veille ou les jours qui précèdent. Et l'armée a développé les techniques qui sont appelées ORFA, pour optimisation des ressources des forces armées. Donc c'est des techniques qui associent des techniques de relaxation, de préparation mentale, de motivation. Et c'est fait beaucoup au retour de mission, mais ça commence à être fait aussi pour la préparation avant les départs en mission. Enfin, on peut utiliser quelques psychostimulants. Enfin, le seul qui soit recommandé en pratique courante, c'est la caféine. On a des comprimés de caféine à libération prolongée, surtout pour les pilotes qui font des vols longs. On n'utilise pas d'autres psychostimulants. L'armée française a utilisé le modafinil pendant la guerre du Golfe et ça a fait beaucoup de bruit. Maintenant, on ne l'utilise plus en pratique courante dans les armées. En revanche, les pilotes ont du modafinil dans leur kit de survie si jamais ils doivent s'éjecter en milieu hostile pour leur permettre d'être plus efficaces pour s'échapper. Et on peut utiliser ponctuellement en mission du zolpidem ou du zopiclone, mais avec une inaptitude au combat de 8 heures à l'issue de la consommation. Enfin, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un effectif suffisant pour pouvoir faire tourner tout le monde et éviter que tout le monde soit fatigué en même temps. Ça, c'est juste un graphique pour illustrer l'efficacité des ORFA, les techniques de relaxation. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite chez des soignants dans un hôpital militaire à qui on faisait faire on imposait une sieste en début d'après-midi. Il y avait un groupe qui faisait une sieste normale et un groupe qui faisait la sieste améliorée avec les techniques. À l'époque, on appelait ça les TOP pour techniques d'optimisation de potentiel. Maintenant, ça s'appelle les ORFA. Et pareil, ils faisaient une sieste avec le fameux bandeau DREAM. Donc, on avait un électroencéphalogramme fiable. Et bien, finalement, le groupe qui avait la sieste sensibilisée avait un temps de sommeil plus long et passait plus de temps en stade 2 et en stade 3. Donc, c'était des siestes plus efficaces. Voilà, donc la majorité des données que je vous ai présentées sont en dehors des travaux de thèse et puis des citations que j'ai mises, c'est tout issu de ce livret qui a été fait par les chercheurs en neurosciences de l'Institut de recherche biomédicale des armées. C'est un livret qui est disponible sur Internet. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup pour cette belle et intéressante présentation. Donc, j'avais trois petites questions. Est-ce que vous faites des campagnes de dépistage systématiques, on dira, des troubles du sommeil et en particulier des syndromes d'apnée du sommeil, enfin, ne serait-ce que cliniques. La deuxième, c'est est-ce que vous faites systématiquement ou pas des tests de vigilance pour vérifier l'efficacité des traitements des syndromes d'apnée en, alors, je suppose chez les navigants, les pilotes d'avions ou de navires, ou plus largement. Et puis la troisième, je vais vous la poser, mais vous y avez répondu, je pensais que vous ne le diriez pas, mais vous utilisez donc des médicaments psychostimulants, donc de la caféine, du modafinil, mais uniquement en cas de survie, comme vous l'avez dit, d'urgence, et que le modafinil, pas les nouveaux, enfin les nouveaux, les pitolisants ou le somriamfétol. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, parce qu'elle est un peu...
Oui, non, non. Alors, pour la première question, malheureusement, on ne dépiste pas systématiquement les troubles du sommeil. Mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler, surtout maintenant qu'on a des données qui montrent que, d'abord, on a beaucoup de troubles du sommeil chez les militaires. Ensuite, parce qu'on sait que ces militaires qui ne dorment pas bien, ils risquent d'être moins efficaces en mission et en plus, ils risquent plus de développer un état de stress post-traumatique. C'est un peu mon cheval de bataille actuel. Et donc, moi, j'ai développé une consultation délocalisée. Je vais régulièrement à Lorient sur la base des commandos marines pour recevoir les commandos marines en consultation sommeil. Les personnels commencent à venir, mais les militaires sont toujours assez réticents à venir voir le médecin militaire parce qu'ils ont peur de perdre leurs aptitudes. Donc effectivement, le dépistage des troubles du sommeil, il faudrait que ce soit fait de façon systématique lors des visites qui sont prévues, les visites périodiques. Donc ça, on travaille dessus avec nos états-majors. La deuxième question, donc voilà, il n'y a pas de dépistage systématique. Alors, la deuxième question...
Le contrôle de l'efficacité des traitements...
Alors, c'est fait chez les personnels navigants. Les autres personnels qu'on suit pour une apnée du sommeil ou autres, ceux-là, s'ils sont bien, s'ils se sentent mieux, qu'ils ont un bon score d'Epworth, c'est que chez des rapports de machines qui sont corrects, ceux-là, on ne met pas de limitation d'aptitude. Voilà, sauf personnel navigant ou parfois certains personnels à responsabilité qui prennent du car ou autre. Et la dernière question, les psychostimulants. Donc, effectivement, il n'y a que la caféine. Je sais que l'Institut de recherche biomédicale des armées, j'avais échangé avec eux au sujet du pitolisant ou autre. Quand il y a une nouvelle molécule, ils étudient un peu la littérature. Pour le moment, non, il n'y a pas de psychostimulants. Et même le modafinil, qui est couramment utilisé dans l'armée américaine et l'armée anglaise, nous, on ne l'utilise pas en courant, c'est vraiment que dans les kits de survie. Merci.
Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Hein. C'est un autre monde. Et là, on va prendre le large.